Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous consacré au preview draft dans l'optique donc du repêchage 2021. Chaque jour, on analyse les besoins prioritaires de chaque franchise, donc avant d'identifier très clairement les décisions qui seront prises du côté de Cleveland. Et aujourd'hui, une équipe qui va devoir faire des choix cruciaux, avec notamment une free agency que certains ont pu juger assez curieuse. On y reviendra peut-être en détail tout à l'heure. Doit-on en faire un fromage, diront certains. Peut-on concilier Aaron Rodgers et Matt LaFleur avec les choix qui seront faits durant cette intersaison? On va en parler dès à présent donc de cette intersaison des Green Bay Packers en compagnie d'un de leurs fans inconditionnels, Alexandre Locke. Salut Alex.
Bonjour Greg, bonjour à tous.
Et alors j'avoue, ça va être intéressant cette émission-là, puisque du coup, je le rappelle, hein, on a toujours la même organisation, à savoir on établit les besoins prioritaires, on détermine des joueurs qui fit très bien dans le système et on identifiera en fin d'émission des pépites potentielles à récupérer entre le 4e et le 7e tour pour l'équipe concernée. Du côté de Green Bay, on a les mêmes besoins, mais pas du tout dans le même ordre. Donc c'est là où ça va être intéressant et c'est là où voilà où ton éclairage va être assez précieux. On le rappelle, et ça c'est important, Kevin King est revenu du côté de Green Bay. On aurait pu considérer ce besoin comme un besoin prioritaire. Est-ce qu'il l'est toujours à l'heure où on se parle?
Eh ben oui, il l'est toujours prioritaire, ce besoin de corner. Parce que bon, Kevin King, je vais pas m'étendre parce que je pourrais en parler longtemps. Son retour, à la limite, je peux le comprendre. Ce que je prends moins, c'est le montant de son contrat. Mais bon, malgré ça, le poste de corner, c'était vraiment pour moi, et je pense que c'est le besoin numéro un pour les Packers. On l'a vu on nous a vu en grande souffrance pendant la finale de conférence face aux receveurs des Bucks. Ça a souvent été le cas pendant la saison et ça a souvent été le cas ces quatre dernières saisons avec Kevin King, malheureusement, qui est trop sur courant alternatif. Ça souffre également dans le slot où Chandon Sullivan, je pense pas que ça soit son poste de prédilection, mais dépanne depuis quasiment 2 ans. Il fait des bonnes choses, mais c'est pareil, il a pas mal souffert en playoff. Donc, malgré le retour de King, je pense qu'il faut quand même prioriser le poste de corner. Que ça soit donc, moi je pense, un corner purement extérieur, mais pour le slot également. Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités, mais je pense que malgré tout, ça va être à suivre. Alors après, il y a beaucoup de joueurs à ce poste-là qui ont le vent en poupe un peu en ce moment. Donc, ça risque d'être pas mal disputé. Il y a pas mal d'équipes qui ont des besoins aussi. Donc, je me demande si le retour de Kevin King, c'est pas aussi une assurance pour le staff de se dire si les joueurs qu'on aime bien à ce poste-là sont plus là en 29, qui est donc le poste où l'endroit où Green Bay va choisir. Eh ben, on a King et on peut se permettre d'attendre la fin du 2e tour ou peut-être la fin du 3e tour. Donc voilà. Enfin, moi, je pense que c'est surtout une assurance. Ça, en 2018, ils ont re-signé Devon House, qui n'était pas un très bon corner. Ils ont fait revenir Tremon Williams, qui était un bon corner, mais âgé. Et ça ne les a pas empêchés de choisir Jair Alexander au premier tour de la draft, en faisant un trade-up en plus. Donc, je ne pense pas que ça change ce besoin-là.
Alors, pour le coup, ils ont signé Kevin King. Donc, ça redistribue ou pas les cartes sur le poste de cornerback. Par contre, il y a d'autres positions, malgré tout. Ils ont laissé partir des joueurs sans forcément, à l'heure où on se parle, en tout cas, leur trouver vraiment de remplaçants attitrés. Deux postes notamment principaux sur lesquels j'aimerais avoir ton avis. Le poste de linebacker, qui déjà est extrêmement décevant l'année dernière. On le rappelle pas, hein, c'était la faille principale de la défense des Packers. Ils ont laissé partir Christian Kirksey, qui est un petit peu le lieutenant, on dira, de Mike Pettine, hein, mais qui est parti dans le même élan du côté de Houston. Et puis surtout sur la ligne offensive, on a eu le départ de Corey Linsley, un des tout meilleurs centres de la ligue, qui va peut-être falloir considérer, en tout cas, qui va peut-être pousser Green Bay à se pencher sur la ligne intérieure. Comment tu analyses ça? Quelle est pour toi la priorité sur ces deux positions?
Et ben pour moi, c'est pas forcément des priorités, justement, parce que je pense que, alors, le départ de Linsley, ça va être une très grosse perte, ça c'est certain. Maintenant, c'est un joueur qui a quand même eu des hauts et des bas pendant sa carrière aux Packers. Il a des fois été blessé, donc Green Bay a pris l'habitude d'avoir des solutions alternatives. Et je pense que Lucas Patrick, qui était dans l'équipe cette année, qui était dans l'alignement titulaire, ou Elton Jenkins, un des deux va glisser au centre. Donc il y avait aussi John Runyan, donc qui était rookie la saison dernière, l'ancien prospect de Michigan, qui a fait quelques entrées très satisfaisantes. Donc je pense que le 5 titulaire sur la ligne, il est déjà là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas préparer la suite ou tenter de se renforcer, mais je suis pas convaincu que ça arrive si tôt dans la draft. S'ils devaient considérer la ligne, je penserais peut-être plus à un tackle droit. Parce que
aujourd'hui, c'est Billy Turner, c'est ça?
Voilà, c'est Billy Turner. Alors, Billy Turner, qui à la base était aux Packers pour être garde et qui a été replacé cette année donc à droite de la ligne en alternance avec Wagner, il est plutôt meilleur en tackle qu'en garde, donc il est encore sous contrat pour 2 saisons. Mais je me demande si le staff va pas vouloir préparer l'avenir. Donc, mais ça, c'est sûr que si un gros prospect descend en premier tour, ça peut être à regarder, mais peut-être plus tard. Les Packers ont l'habitude de sélectionner des linemen au 4e tour et souvent avec réussite. Hein. Bakhtiari, Seaton, Lang, Linsley, c'était un 5e tour, je crois, ou 6e tour. Tu as aussi Traitor qui est maintenant au Brown, qui était un 4e tour. Donc, sincèrement, je suis pas sûr qu'ils en fassent le besoin prioritaire.
Et donc, linebacker, tu me disais, ça t'inquiète pas plus que ça encore?
Alors, si, bien sûr que c'est inquiétant, mais j'ai le sentiment que le staff a confiance dans les deux jeunes qui étaient donc rookies en 2020, Chris Barnes et Kamal Martin. Alors Barnes, c'était un joueur non drafté, ça a été vraiment une très bonne surprise. Il s'est quasiment imposé comme linebacker numéro 1. Martin, il a eu quelques soucis de blessure, mais il a été présent surtout dans la rotation, mais il a été pas mal. Je suis pas certain que ça soit vraiment dans leur optique de drafter un linebacker si haut. C'est pas dans leurs habitudes de considérer ce poste depuis Agio qu'en 2008 ou 2009. Peut-être avant, je sais plus. Avant. C'est pas un poste qui est sélectionné très haut à Green Bay. Donc, je suis pas sûr. Je pense par contre que si on pour améliorer le run stop, ils pourraient regarder du côté de la ligne défensive avant même le poste de linebacker. Oui, parce qu'à côté de Kenny Clark, il y a des trous quand même.
Oui, oui, il y a des joueurs plus de devoirs, plus de rotations en effet, que vraiment des impact players assez notables.
Surtout ouais, contre la course, Kingsley Kiki est un bon defensive tackle, mais plutôt tourné vers le pass rush. On l'a vu l'année dernière, il a fait quand même pas mal de sacks. Mais une vraie muraille sur la ligne, ça, il n'y en a pas.
Alors, on va développer justement, donc si on part sur un corner au premier tour, ce qui paraissait la préférence, t'irais plutôt vers qui, a priori, vers un... Alors, je sais que tu avais un penchant plutôt pour Greg Newsom.
Ouais, c'est mon coup de cœur, Greg Newsom de Northwestern, clairement. Il me fait penser à... c'est le même genre de joueur que Jair Alexander, avec à peu près le même parcours de processus draft. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand il a été interviewé à son pro day, le corner à qui il a fait référence comme modèle, c'est Jair Alexander. Donc, je me dis que les planètes peuvent s'aligner et ça serait un duo vraiment intéressant. Il est hyper rapide. Alors, il provoque pas beaucoup de turnovers, des interceptions. Je ne sais pas s'il en a même fait 2 pendant son cursus, mais par contre, il concède pas de big play, quoi. Il concède très peu de réceptions. Donc c'est vraiment un corner qui est fiable et vraiment ultra rapide. Donc c'est ça serait un peu le frère jumeau. Alors il est un tout petit peu plus grand, mais ça serait le frère jumeau d'Alexander à l'opposé. Je trouverais ça vraiment super.
Ouais, ça peut être à surveiller. Alors, c'est un joueur qu'on en parlait avec Jean-Michel il y a quelques jours, mais voilà, c'est peut-être un peu fragile. C'est peut-être un peu ce qui peut le desservir en fin de premier tour. Après, tu le disais en off, c'est vrai que Green Bay reste rarement à sa position initiale au premier tour. Certains s'en rappellent, hein, il y a quand même eu un trade-up l'année dernière avec Jordan
Non,
Love, mais en tout cas,
pitié.
en tout cas, Gutkunst est assez actif sur ses principaux choix. Et là, pour le coup, pareil, je serais pas étonné, j'imagine toi non plus, qu'il y ait potentiellement, voire même un trade down, hein, vu que mine de rien, il y a des besoins qui existent dans cette équipe-là, mais qui sont pas forcément à considérer dès le premier jour.
Oui, tout à fait. C'est justement ce qui peut se passer. Alors, s'il est amoureux d'un corner ou d'un autre joueur, il montera. Il l'a fait, ça fait 3 ans. Il a déjà fait 3 drafts depuis qu'il est GM et il a bougé à chaque fois. La première année, il a reculé, puis il est remonté. Après, il a sélectionné Darnell Savage, il a fait un trade-up et l'année dernière pour Jordan Love. Donc, ça serait surprenant presque qu'il bouge pas. S'il est amoureux, il montera. Ça, j'en ai aucun doute. Par contre, effectivement, si leur objectif, c'est d'aller vers un defensive lineman, on en a parlé dans une autre émission, il peut peut-être reculer, justement, en se disant que bah, ça vaut pas forcément un 29 et qu'en reculant en 35, 36, il peut très bien trouver des profils. Alors, Barmore sera peut-être plus disponible, Barmore d'Alabama, mais peut-être Davion Nixon d'Iowa ou Levion Woods-Urike qui pourrait peut-être lui taper dans l'œil et qui pourrait lui faire gagner un tour de draft, un quatrième tour peut-être. Donc, c'est pas du tout impossible que ça bouge à ce niveau-là.
Tu parlais de la muraille, t'aimais pas mal Jetoufélé également entre le deuxième et le troisième tour. Là, on part plus sur le deuxième choix en l'occurrence.
Ouais, sur le deuxième choix, Jetoufélé, j'aime bien aussi. Ouais, c'est vrai. Alors, il n'a pas joué en 2020, mais c'est un joueur qui est vraiment très explosif. Il a, je trouve, une bonne technique. Alors, pour le coup, il est plutôt efficace sur la course, mais on le voit aussi souvent enfoncer ses adversaires pour aller perturber la poche. C'est un profil intéressant, je pense, avec une marge de progression. Il a pas mal de défauts. Il confond des fois un peu vitesse et précipitation et il se retrouve un petit peu hors course, parce qu'il est souvent, enfin, souvent. Ça lui arrive de finir par terre, mais c'est un profil qui est vraiment intéressant et à côté de Kenny Clark. Ça serait quelque chose de, je trouve, complémentaire.
Oui, c'est ça. Il pourrait être clairement bonifié vu son aptitude à être performant sur le pass rush, même si tu le disais, il peut avoir des instincts un petit peu piégeux. Là, en l'occurrence, avec un peu de discipline et un nose tackle aussi dominant que peut l'être Kenny Clark sur certaines rencontres, c'est sûr que là, en l'occurrence, il y aurait possible bonne affaire pour Green Bay dans ce domaine-là. Le troisième choix, on était tous les deux d'accord. Une des rares fois d'ailleurs sur les Packers, on était d'accord. Le troisième tour, tu partirais quand même enfin sur le receveur que tout le Wisconsin attend désormais.
Ouais, tout le Wisconsin attend, mais bon, avec Davante Adams, il y a quand même
Oui, mais
le
enfin, d'un
meilleur
receveur numéro
ou
2.
un des deux meilleurs
On est d'accord.
receveurs de la ligue. Donc, il faut effectivement, ce qui manque aux Packers, ce qui manque à Rodgers, c'est un receveur un peu gadget player qui peut jouer dans le slot, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de slot receiver à Green Bay, en tout cas pas dans les titulaires évidents. Il y a des joueurs qui dépannent, mais c'est pas leur fonction. On a vu que Matt LaFleur aimait bien les jet sweeps, il aime bien ce genre de tracé, les motions avant le snap aussi. Donc, il lui faut, je pense, un joueur explosif. Et justement, au troisième tour, voire peut-être au quatrième, il y a pas mal de profils comme ça. C'est des joueurs qui peuvent même porter le ballon. Voilà. Moi, j'aime bien Jalen Darden de North Texas,
Tu as bon
beaucoup.
goût.
Très productif, il a marqué un nombre incalculable de touchdowns. Alors, d'accord, c'était à North Texas, mais que je sache, Tyreek Hill, il sortait pas d'une université majeure et ça, il est pas très grand non plus et il a très très bien performé, il performe encore. Voilà, donc ce profil-là, je pense que c'est vraiment ce qui manque à l'attaque des Packers. Bon, dans ce style, il y en a d'autres, hein. Il pourrait y avoir Felton, il pourrait y avoir même Daz Newsome, mais moi j'ai pareil, comme pour Greg Newsome, le corner, j'ai un coup de cœur pour Jalen Darden, le receveur.
Ouais, j'avoue. Alors j'avoue, à titre personnel, j'étais parti plus sur Taylan Wallace, qui je trouve apporte cette espèce de compromis entre la menace intermédiaire et l'efficacité sur le jeu profond. Alors je parlais de Newsome et sa fragilité. Je suis pas complètement rassuré par Wallace dans ce domaine-là. Je trouve qu'il a raté beaucoup de rencontres durant sa carrière universitaire. Mais en attendant, je suis plus parti sur ce type de profil-là parce que, sauf erreur de ma part, Valdes-Scantling et Sam Brown sont free agents l'année prochaine.
Tout à fait, oui.
Donc voilà, il y a quand même
Et
va quand même y
Lazare.
avoir un besoin Qui ça?
Et Lazard aussi. Alain Lazard.
Oui, Alain Lazard aussi. Ouais. Donc, il va quand même y avoir un besoin de numéro 2. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir signer. Hein. Oui, bah, pour le coup, aussi,
bon, il devrait
être prolongé. Voilà, mais, voilà pour le coup, je vois au moins un tag possible d'ici là. Le contraire m'étonnerait beaucoup, même si on n'en est pas à une décision un peu farfelue de l'organisation des Packers depuis l'arrivée du nouveau régime. Mais oui, non, très clairement, c'est pour ça que receveur, je pense qu'à un moment donné, ça risque d'être considéré peut-être plus ou ouais, troisième, quatrième tour, parce que je suis pas sûr que LaFleur va se précipiter là-dessus. Mais ça restera quand même une police d'assurance, si je peux parler ainsi, pour vraiment, au pire, laisser partir un ou deux receveurs ouais. dans ceux qu'on a cités l'année prochaine.
S'ils avaient signé un receveur pendant la free agency, j'aurais peut-être été moins convaincu. On avait beaucoup parlé de Will Fuller qui avait été suivi pendant la saison pour un trade, etc. Bon, finalement, ils n'ont pas bougé du tout. Enfin, pas sur ce type de joueur. Mais là, je pense que oui, troisième tour, quatrième tour maximum, je vois pas comment ils pourraient effectivement ne pas renforcer le poste cette année. Ça serait vraiment un petit peu trop au niveau pour les fans.
C'est sûr. Alors, dis-nous du coup, tu avais pas mal de bonnes pioches éventuelles pour les Packers. On va revenir notamment sur le backfield défensif. Il me semble que tu avais un petit faible également pour Cameron Bynum de Californie.
Ouais, alors Cameron Bynum, j'en avais parlé hein, dans une émission qu'on a fait ensemble au début de l'année. Joueur de Cal, effectivement. Alors, on l'a dit tout à l'heure, les Packers, il leur manque un vrai corner extérieur dominant, et il leur manque un slot, et il leur manque aussi un safety. Parce que le nouveau coordinateur défensif, Joe Barry, a annoncé dans sa conférence, quand il a signé, dans sa conférence de presse, qu'ils allaient jouer, les Packers, allaient jouer 80% des snaps avec trois safety. Alors, Bynum, c'est un corner aujourd'hui. Mais il a vraiment les qualités pour se repositionner en safety. Je pense que pour Barry, ça serait justement tout à fait le type de profil, de ce safety hybride qui peut dépanner, dans différents packages. Il est très bon contre la course, ce qui peut pas être un mal à Green Bay. C'est un bon plaqueur. Alors des fois, il est un petit peu des sautes de concentration, il fait un peu des erreurs, mais bon, ça fait partie de l'axe de travail et de progression que doit avoir un staff avec un jeune joueur, et notamment quand on les prend vers le cinquième ou sixième tour, ce qui peut être son cas. Donc ouais, je pense que ça soit sur le slot ou comme troisième safety, ça peut être vraiment une opportunité intéressante. Moi, j'aime beaucoup ce joueur.
Et il y avait un autre choix également que tu avais cité, alors, qui me paraît un peu plus intéressant encore de par la perspective que tu évoquais, donc d'avoir un safety un peu nickel. Ouais. Carrie Vinson, DLSU.
DLSU, ouais, tout à fait le profil qui manque aux Packers. Voilà. Ce slot pour peut-être laisser Sullivan comme doublure sur les extérieurs. Vraiment, effectivement, Vincent peut être ce slot dominant qui manque à Green Bay.
Très bien. Bah écoute, on suivra en tout cas avec attention, toi le premier, ce que feront les Packers donc lors de cette draft. Ça promet d'être mouvementé quoi qu'il arrive.
Moi, j'espère pas autant que l'année dernière.
Oui, si vous pouvez moi vous mettre en évidence dans le côté négatif.
Bah, c'est-à-dire que là, les sélectionner Kyle Trask, ça serait quand même culotté.
Merci en tout cas Alex d'avoir été en ma compagnie.
Merci à toi Greg.
Et puis on se retrouve dès demain donc pour aborder notamment les New Orleans Saints dans la conférence nationale. D'ici là, passez une très bonne journée. On se retrouve très vite sur les antennes de Touchdown Actu. Salut à tous.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.